Vous écoutez RFI, Radio France Internationale, il est 6h à Paris, 4h en temps universel.
Arnaud Pontus.
C'est RFI Matin et le journal avec Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Ah bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Après la vague bleu marine des européennes, voici celle des législatives.
Le Rassemblement National est arrivé en tête du premier tour en France hier soir et continue à rêver d'une majorité absolue et d'un gouvernement de cohabitation. Tout sauf ça, dit le nouveau Front Populaire de Gauche, arrivé deuxième et qui annonce des désistements à venir. Parmi ses candidats, les tractations commencent pour ce second tour. On y consacre une large page dans ce journal. On évoquera également d'autres législatives qui approche au Royaume-Uni, cette fois avec une victoire annoncée des travaillistes. L'ex-président gabonais Ali Bongo a arrêté sa grève de la faim, c'est une information à RFI. Et puis l'Espagne et l'Angleterre qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro de football.
Le second tour des législatives dimanche prochain sera l'un des plus déterminants de toute l'histoire de la 5e République française, promet Jordan Bardella.
Pour qui le premier tour d'hier a déjà été un verdict sans appel de la part des électeurs. Son parti, le Rassemblement National, est arrivé en tête avec plus de 33% des voix, devant l'Alliance de Gauche du Nouveau Front Populaire, plus de 28%, et devant le camp présidentiel, crédité d'à peu près 22%. Force est de constater que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, a reconnu hier soir l'actuel Premier ministre Gabriel Attal, qui appelle à empêcher une majorité absolue du RN qui permettrait au parti de faire nommer un Premier ministre issu de ses rangs, Jordan Bardella en l'occurrence. Or, sans être acquis, ça ne semble pas non plus complètement exclu par les projections des instituts de sondage après ce premier tour, pour lequel le Rassemblement National a pu compter sur le soutien d'Éric Ciotti, encore président des Républicains mais auteur d'une scission à droite pendant la campagne. Son choix d'alliance n'a pas fait l'unanimité au sein de son parti. Eh bien, ça ne l'a pas empêché d'arriver largement en tête dans sa circonscription à Nice avec 41% des voix. Reportage de Raphaël Delvolvé.
La ferveur dans le vieux port de Nice au moment d'annoncer les scores locaux, tous très favorables à son alliance, mais Éric Ciotti transmet ensuite son inquiétude.
Voir l'extrême gauche prendre le pouvoir en France grâce à une alliance qui pourrait voir dans le même gouvernement Madame Rousseau, Monsieur Roussel, Monsieur Attal, Madame Borne.
Mettre tous les adversaires dans le même panier pour galvaniser un public qui rêve de le voir dans un gouvernement dirigé par Jordan Bardella, mais aussi pour lancer un nouvel appel aux LR qui ne l'ont pas suivi.
Je le dis à tous les membres des Républicains, ce soir, pas une voix des Républicains ne doit manquer à la coalition nationale.
Je ferai toutes les démarches pour favoriser cette unité.
Parmi la petite vingtaine de sympathisants, plus personne ne craint le RN.
Cette alliance, je l'attendais depuis longtemps. Il ne faut pas avoir peur du RN aujourd'hui. Et les dernières brebis galeuses qui restent, elles vont rapidement partir année après année. C'est déjà ce qui se fait.
LR Canal Historique, 10% hier soir, refuse pour le moment tout désistement et consigne de vote. Toutefois, les lignes continuent de bouger. L'un des présidents par intérim, François-Xavier Bellamy, a déclaré hier soir « Le danger qui guette notre pays, c'est l'extrême gauche ». Nice, Adrien Toureau, Raphaël Delvolvé, RFI.
Et à gauche, justement, 32 candidats du nouveau Front Populaire ont été élus dès le premier tour, contre 39 pour le Rassemblement National. La question désormais, c'est celle de la stratégie à adopter en cas de triangulaire.
Oui, c'est-à-dire si trois candidats se sont qualifiés pour le second tour, et on est loin, très loin du cas isolé, ça concerne plus de 300 circonscriptions, c'est tout simplement historique. Très vite après l'annonce des résultats hier soir, la figure de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a donné le ton. Désistement en cas de troisième place, et si le RN est arrivé en tête. Position partagée par le député européen de gauche Raphaël Glucksmann, leader de Place Publique.
Il n'y aura de notre côté aucune hésitation, aucune tergiversation. L'unique enjeu de la semaine qui vient, c'est de barrer la route au Rassemblement National et d'empêcher une majorité absolue d'extrême droite. Et donc nous sommes extrêmement clairs. Partout où les candidats qui nous représentent sont arrivés troisième, il y aura désistement face au Rassemblement National, et nous appellerons à voter pour le candidat qui peut battre le Rassemblement National, quel qu'il soit, quel que soit son parti politique, quelles que soient les divergences qui nous opposent.
Alors, quelle sera l'ampleur de ces désistements? Réponse mardi à 18h. Les candidats encore en lice sont jusqu'à ce moment-là pour annoncer s'ils se maintiennent ou non pour le second tour. Pour ce qui est du camp présidentiel, là aussi on parle de désistements à venir pour empêcher des victoires du RN, ou en tout cas pour avantager un autre candidat qui défendrait les valeurs de la République. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Gabriel Attal. nationale, laissant quand même planer le doute sur un éventuel soutien accordé aux candidats issus de la France insoumise. Hier soir, des milliers de personnes se sont mobilisées dans plusieurs villes de France pour appeler à ne pas voter pour le Rassemblement national.
Ils étaient 60 000 hier soir au Hellfest.
Oui, alors pas pour suivre les résultats a priori, mais plutôt pour suivre les concerts de ce festival de métal à Clisson dans l'ouest du pays. Sauf que la soirée électorale s'est quand même invitée parmi les festivaliers, alors que le monde de la culture s'inquiète, lui aussi, d'une arrivée au pouvoir du RN. C'est un reportage de Thomas Arms.
À l'annonce des premiers sondages de sortie d'urne, pas de grands cris de foule. Laurent Perrault et sa femme regardent leur téléphone, ils sont viticulteurs et habitent Clisson. Ils s'attendaient un peu au résultat.
De toute façon, le Rassemblement National, c'était prévu qu'il fasse 30%. Malheureusement, c'était prévu. Non, ça me choque pas parce que bon, on s'attend à ça.
Même réaction pour Pascal Gueug, directeur de la Fédération des musiques métalliques.
C'est plutôt bien qu'il y ait eu un gros taux de participation. Ce qui est moins bien, c'est que ça confirme quand même les chiffres du RN. Donc ça, c'est pas trop rassurant pour nous. Et pour la culture en général, en tout cas, ça c'est sûr.
Par contre, les festivaliers du Hellfest sont un peu surpris, comme Mathieu.
On est dans la merde, c'est mal barré. Je repense plutôt aux années Vitrolles, le sous-marin qui ferme. Il y a un passif déjà.
Bertrand espère lui néanmoins un résultat différent et un RN moins puissant à l'issue des triangulaires du second tour dans une semaine.
Je pensais que le Front Populaire il aurait pu faire un peu plus. Après, ça reste que le premier tour, on verra. Le deuxième, s'ils refont 34%, ils n'auront pas beaucoup de sièges à la fin. Donc on y croit toujours sur le deuxième tour. Faut pas que l'extrême droite passe, quoi.
230 artistes de la scène rock et 70 labels français ont signé une pétition contre le RN et appelé à faire barrage. Thomas Arms, au Hellfest à Clisson, RFI.
Et dispositif spécial sur Radio France Internationale pour décrypter les résultats de ce premier tour des législatives. Édition spéciale à partir de 7h15, heure de Paris.
Les Britanniques aussi vont élire leurs députés et ce sera cette semaine, jeudi.
Sauf que là, il n'y aura qu'un seul tour, ce qui est prévu dans la constitution du Royaume-Uni. Charge ensuite au roi de demander au chef du parti qui aura obtenu le plus de sièges au Parlement de devenir Premier ministre et de former un gouvernement. Et tous les sondages s'accordent pour le dire, c'est le Parti travailliste qui devrait l'emporter. Il est largement en tête dans les intentions de vote et devrait mettre fin à 14 années de règne conservateur incarné en ce moment par le Premier ministre Rishi Sunak, à qui il ne reste donc que quelques jours pour faire campagne et tenter d'inverser la tendance. Ça s'annonce complicated. À Londres, Emeline Vin.
L'immigration, la santé et l'économie ont été largement évoquées. Pas toujours de manière constructive, mais les jeux sont faits, estime Justin Fisher, professeur en sciences politiques à l'Université de Brunel.
Il ne fait aucun doute que les conservateurs vont perdre et que les travaillistes vont l'emporter. La seule incertitude, c'est l'ampleur de la majorité travailliste. Au cours de la campagne, le Labour a creusé l'écart avec les conservateurs.
Les libéraux démocrates pourraient redevenir le troisième parti du pays, devançant à nouveau les nationalistes écossais. La défaite annoncée des conservateurs s'explique par une vague de dégagisme assez particulière après 14 ans au pouvoir.
La plupart des gouvernements voient leur popularité s'émousser au fur et à mesure de leur mandat. Ce gouvernement-ci a gagné en popularité jusqu'en 2021, mais a dégringolé ces trois dernières années. Il y a eu les fêtes à Downing Street, Liz Truss, puis l'immense insatisfaction liée à Rishi Sunak. La chute a été incroyablement rapide.
Un scandale de Paris a d'ailleurs éclaboussé une dizaine de candidats. La déontologie et la réforme du système électoral font partie des préoccupations des électeurs dont la défiance pourrait affaiblir la participation. Emeline Vin, Londres, RFI.
Il est 4h08 à Nouakchott. On attend la proclamation des résultats officiels de la présidentielle en Mauritanie. Tous les résultats des bureaux de vote ont été compilés. Mais l'avance du sortant Mohamed Oulcher El Radzouani semble assez irrattrapable. Son principal opposant Biram Dahabeid a d'ores et déjà annoncé qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de la CENI, la commission électorale, qu'il juge instrumentalisée par le pouvoir. Nous descendrons dans la rue pour refuser le hold-up électoral. C'est ce qu'il a dit.
L'ex-président gabonais a stoppé sa grève de la faim, et c'est une information RFI.
Renversé par un coup d'état militaire en août dernier et désormais assigné à résidence, Ali Bongo avait cessé de s'alimenter le 14 mai pour protester contre le traitement réservé à son épouse Sylvia et à leur fils Nourdine, tous deux incarcérés. Leurs avocats dénonçaient alors une séquestration et des actes de torture. Et les inquiétudes sur leur sort demeurent vives alors que la vacance judiciaire débute ce lundi, Sébastien Nemeth.
La grève de la faim d'Ali Bongo a cessé fin mai, juste avant la visite du président Oligui Nguema en France le 28. Son entourage l'a supplié d'arrêter. Il avait perdu du poids et sa mobilité s'était dégradée, confie un proche. Après deux semaines sans s'alimenter, l'ancien président serait en bonne santé, mais un de ses anciens kinésithérapeutes a été rappelé pour lui prodiguer des soins. Une bonne source évoque un possible accord entre Ali Bongo et le pouvoir, puisque quelques jours plus tard, ses deux fils, Djalil et Bilal, qui vivaient avec lui dans sa résidence, ont pu quitter le Gabon. Ils se trouvent désormais à Londres avec leur Léa. Ils reçoivent un soutien psychologique car ils ont été maltraités et sont traumatisés, indique-t-on dans l'entourage. Ali Bongo se retrouve donc un peu plus isolé alors que son épouse et son fils aîné sont toujours emprisonnés. Les vacances judiciaires commencent ce lundi. La juge d'instruction va s'absenter jusqu'au 19 août, donc rien ne va se passer dans le dossier, regrette une bonne source. Pendant cette période, il n'y aura donc pas d'audition ni d'acte judiciaire. Ils ne verront pas leurs avocats alors qu'on sait qu'ils sont très stressés et démoralisés, indique un proche, rappelant que malgré une lettre du ministre de la Justice, leur conseil ils n'ont toujours pas le droit de leur rendre visite en prison. L'instruction, elle, continue. L'enquête de moralité et l'examen du CV étaient en cours et l'on pensait que la procédure touchait à sa fin. Mais la juge a indiqué qu'il restait des confrontations et des auditions à réaliser.
Sébastien Némette. Des vents soufflant à plus de 200 km/h s'approchent des Caraïbes. C'est l'ouragan Beryl, le premier de la saison, et il est extrêmement dangereux, prévient le Centre national des ouragans de Miami. Plusieurs îles sont en état d'alerte, état d'urgence même pour celle de Tobago, de l'archipel de Trinité et Tobago. Toutes les écoles ont été fermées là-bas.
La démocratie meurt dans l'obscurité, c'est le slogan du Washington Post.
Qui semble lui aussi mourir à petit feu. En tout cas, le journal traverse une crise profonde ces dernières semaines. Son directeur général est visé par des révélations en série sur sa gestion d'un scandale d'écoute téléphonique illégale lorsqu'il travaillait encore pour un autre groupe de médias. Les journalistes du Washington Post eux-mêmes ont enquêté et publié le fruit de leurs recherches dans les pages du journal cette semaine. Une position de plus en plus intenable qui s'ajoute à deux démissions successives à la tête de la rédaction, mais aussi à des problèmes économiques majeurs. Le nombre d'abonnés est en chute libre, Agnieszka Kumor, même parmi les lecteurs les plus fidèles.
Un demi-siècle après avoir fait éclater le scandale du Watergate, le Washington Post accuse une perte de 70 millions de dollars. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui s'était offert le poste pour 250 millions de dollars en 2013, mise sur le Britannique William Lewis, nommé comme directeur général à l'automne dernier avec la mission de redresser la barre. Comme d'autres médias, le Washington Post a profité des bouleversements des années Trump jusqu'en 2021. Mais avec l'arrivée de Joe Biden, sa croissance a été stoppée net. La refonte de la rédaction inquiète et la personne du directeur divise. Soupçonné d'avoir couvert des écoutes téléphoniques illégales pratiquées par l'ancien tabloïd britannique News of the World, alors qu'il travaillait pour le groupe du milliardaire Rupert Murdoch, Lewis se trouve aujourd'hui au cœur d'une enquête de ses propres journalistes. S'il n'a pas la confiance de l'équipe du Post, le directeur général n'aura pas d'autre choix que de partir, estiment les experts.
L'Espagne qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro de football, victoire 4-1 face à la Géorgie. Ça a été beaucoup plus compliqué pour l'Angleterre, qui a même frôlé l'élimination, menée au score tout au long du match, avant d'arracher les prolongations en égalisant dans la toute dernière minute du temps réglementaire. Finalement, les Anglais se sont imposés 2-1 face à la Slovaquie. De nouveau huitièmes de finale ce lundi. La France affronte la Belgique à 16h temps universel et puis à 19h le Portugal face à la Slovénie. Et un Slovène, justement, Tadej Pogacar, en maillot jaune dès le deuxième tour, deuxième étape du Tour de France. Étape remportée à Bologne en Italie par un Français, Kevin Vauclin. Aujourd'hui, place à la dernière étape italienne de cette grande boucle, près de 230 km jusqu'à Turin, avec des sprinteurs attendus au tournant.
Merci à vous, Gaëtan Plenet. À tout à l'heure. RFI Matin, toute l'actualité de ce lundi 1er juillet avec l'ensemble de la rédaction. On parle très largement politique française aujourd'hui, au lendemain du premier tour des élections législatives. C'est le Rassemblement National qui est donc arrivé en tête. Nette avance pour le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui n'avait jamais fait aussi bien lors d'un premier tour. Plus de 33% des voix, 5 points de plus que le nouveau Front Populaire et au moins 10 points d'avance sur le camp présidentiel. L'extrême droite est aux portes du pouvoir en France. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Paris ou Marseille hier soir pour dire leur inquiétude.
C'est triste de voir une France comme ça, une France qui vote pour l'extrême droite. On a essayé, les gens comme nous, on a essayé de voter, les gens des quartiers, ils ont essayé de voter. Il y en a plusieurs ici qui n'ont jamais voté de leur vie, et là, on a essayé de changer les choses, et au final, on voit que ça sert un peu à rien.
Reportage de Siam Spencer à Marseille à retrouver tout à l'heure. Édition spéciale au lendemain de ce premier tour des élections législatives en France. Les résultats, les analyses, les débats, les reportages, avec la rédaction et nos invités tout au long de RFI Matin. C'est aussi à retrouver sur RFI.fr. On a donc assisté hier à une déroute du camp présidentiel lors de ces législatives en France. Seulement 21 à 22% des voix pour les candidats Ensemble pour la République. Loin derrière l'alliance de gauche du nouveau Front Populaire qui totalise autour de 28% des suffrages. Et le Rassemblement National donc est en tête avec plus de 33% des voix. Baptiste Coulon a suivi cette soirée électorale dans la Nièvre à Nevers. 30 000 habitants, on est à 200 km au sud de Paris. Dans la première circonscription de ce département, là aussi, le RN est arrivé très largement en tête. Reportage avec des militants de chaque camp.
Dans cette salle de la préfecture, tous les candidats étaient présents pour assister aux résultats. Projetés sur un écran géant, ils sont sans appel. 40% pour Charles-Henri Gallois, le candidat du RN. Dans l'ambiance feutrée des lieux, ses militants se montrent discrets. Stéphane, lui, exulte, mais reste prudent.
Je dirais que je suis heureux, je suis très heureux. J'attendais ça depuis des années et des années. Mais il ne faut pas non plus se reposer sur le premier tour. Il y a le deuxième tour. Et c'est le deuxième tour qui sera le plus important. Il faut aller voter pour qu'on puisse avoir une majorité au Parlement.
Pas de triomphalisme non plus pour Damien, prêt à repartir tracté pour le second tour. Dans la Nièvre, les enjeux de campagne ne manquent pas.
On va avoir plusieurs sujets importants, tels que la désindustrialisation. Et ensuite, il y a un gros problème de santé. Aujourd'hui, il faut faire des kilomètres pour avoir un médecin. Donc aujourd'hui, c'est ce à quoi Charles-Henri Gallois devra s'atteler pour la Nièvre et la France en règle générale.
Pour cela, il faudra battre Perrine Goulet, la députée sortante du camp présidentiel. En poste depuis 2017, elle obtient 28% des voix, son plus mauvais score. Ses militants réunis dans un bar accusent le coup. L'ancrage local de la députée sortante n'a pas résisté à la vague RN, concède Isabelle.
On s'était dit, pour les députés, ça ne va pas être tout à fait pareil. Parce que normalement, on les connaît, ils sont prêts et ils habitent sur le territoire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On est dans la suite du vote des européennes, c'est-à-dire que les gens, ils ont envie de renverser la table.
Pour Idriss, il va falloir se remettre en question et repartir au combat.
On va se battre dans la Nièvre, la Circo n'est pas perdu. On va aussi convaincre les électeurs qui avaient pour but de voter pour le Front Populaire. On n'est pas défaitiste à 100%, non.
D'autant que Brice Larep, le candidat nouveau Front Populaire arrivé troisième, retire sa candidature dans une circonscription pourtant historiquement socialiste, rappelle Charlène, militante insoumise désabusée.
C'est les terres de Mitterrand et de Pierre Bérégovoy. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on a raté autant les uns et les autres? Est-ce que c'est pas la ruralité qu'on a tant laissé tomber et qu'on n'a pas réussi à récupérer? C'est quoi le mal-être finalement des habitants et des habitantes ici? Le RN, c'est pas plus des services publics, c'est le néant. Maintenant, à voir comment ça va se passer, mais je pense que malheureusement ici, on aura deux députés RN la semaine prochaine.
Nathalie, militante écologiste, se dit aussi inquiète, mais rappelle que la gauche a su parler d'une même voix.
Je garde espoir pour ce qui concerne la dynamique de gauche. Je crois qu'on s'est parlé pour de vrai et je crois qu'on va pouvoir continuer dans ce sens. De toute façon, face au RN, on est obligé de le faire.
Si Charlène dit encore hésiter, Nathalie, elle, en est certaine. Elle votera pour la candidate du camp présidentiel pour faire barrage au RN.
Reportage de Baptiste Coulon à Nevers, dans la Nièvre. 577 élections hier, 577 circonscriptions à pourvoir et déjà 39 députés Rassemblement National élus dès le premier tour, 32 du côté du nouveau Front Populaire. Cette victoire sans appel du Rassemblement National pour le premier tour est évidemment observée de près à l'étranger et dans l'ensemble du monde. On va voir comment ce succès et ses éventuelles conséquences sont perçues par Bruxelles et par les partenaires européens de la France. Bonjour Jean-Jacques Herry.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos correspondants à Bruxelles. Est-ce qu'il y a déjà des réactions du côté des institutions européennes ?
Non, pas de réaction et ce n'est pas étonnant. Officiellement, les institutions et les autorités européennes gardent le silence et elles continueront encore à le faire après ce premier tour. Mais clairement, les résultats d'hier viennent confirmer toutes les craintes ici après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre le 9 juin dernier. Les interrogations et les doutes se font plus précis et plus lourds. On se demande à Bruxelles quelles pourraient être les conséquences de l'arrivée du Rassemblement national, parti anti-européen, à la tête d'un État qui est l'un des membres fondateurs de l'UE, à la fois deuxième contributeur au budget de l'Union européenne et second pays le plus peuplé, et qui, historiquement, et encore ces dernières années, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a eu un rôle moteur en Europe.
Oui, plus précisément, Jean-Jacques, quelles sont ces craintes ?
Eh bien, celle induite par le partage du pouvoir européen dans le cadre d'une cohabitation avec un chef d'État qui sera politiquement forcément affaibli, même s'il continuera de siéger au Conseil européen. Cela a déjà commencé d'ailleurs sur la question du futur commissaire européen français. Traditionnellement, c'est le président français qui propose un nom. Emmanuel Macron a ainsi déjà fait savoir qu'il voudrait voir Thierry Breton reconduit dans le nouveau collège des commissaires. Mais cette fois-ci, Jordan Bardella, qui pourrait devenir Premier ministre si le Rassemblement national obtenait une majorité absolue, a annoncé que lui aussi proposerait un candidat, on pourrait assister ici à un premier bras de fer. Et puis si c'est un autre type de coalition construite pour l'occasion qui l'emporte, cela pourrait se traduire par une perte d'influence française, avec notamment des ministres français qui éventuellement pourraient se contredire d'une réunion à l'autre, et donc mènerait in fine à une politique européenne plus floue.
Oui, mais cette possibilité-là ferait moins peur que le Rassemblement national.
Oui, parce qu'une partie du programme de l'extrême droite est clairement anti-européen et pourrait remettre en cause beaucoup de choses dans une opposition frontale à l'Union, et ce, alors que la France y avait jusque-là un rôle moteur. Parmi les sujets qui inquiètent, il y a celui du soutien à l'Ukraine, notamment du fait de la proximité longtemps affichée du RN avec la Russie. Et puis il y a également une grande interrogation économique. Alors que la Commission a ouvert la voie à une procédure pour déficit public excessif contre la France il y a une dizaine de jours, Paris étant censé présenter à l'automne son plan budgétaire de correction pour les quatre années à venir. Que se passerait-il si d'aventure la France décidait de ne pas respecter ses engagements européens, notamment budgétaires ? Est-ce qu'il serait alors aussi facile de sanctionner un poids lourd européen comme la France en la privant de fonds européens qu'un pays comme la Pologne ou la Hongrie ? Là encore, on entre dans l'inconnu.
Merci à vous Jean-Jacques Herry, à Bruxelles.
Merci, bonne journée.
RFI Matin, on revient tout au long de la matinée sur les résultats de ce premier tour des élections législatives en France. Édition spéciale à suivre. Et dans 25 minutes, le regard de notre invité Afrique du jour, troisième vice-président du Sénat gabonais. Il se définit lui-même comme un grand observateur de la vie politique française. Marc Ona Essangui avec nous tout à l'heure. Et pour l'heure, voici notre invité culture du jour, c'est le pianiste et chef d'orchestre Yvan Cassard. Il a été le directeur musical de Johnny Hallyday durant une vingtaine d'années. Musicien de formation classique, il a réorchestré en version symphonique les succès de la star disparue en 2017. Et à partir d'enregistrements inédits de la voix de Johnny Hallyday, il a fait deux albums. Yvan Cassard s'est lancé ensuite dans une grande tournée à travers toute la France, le Johnny Symphonic Tour. Dans quelques jours, il fera étape en Suisse. Yvan Cassard est avec Edmond Sadaka.
Bonjour Yvan Cassard.
Bonjour Edmond.
En quoi consiste exactement ce spectacle grandiose que vous proposez ?
En fait, c'est un spectacle total. On retrouve des enregistrements, des versions inédites de Johnny, qu'il a souvent chanté en live, que j'ai trouvé, des petites pépites. Et on entend Johnny, bien sûr, mais on le voit sur quatre écrans, sur 200 mètres carrés d'écran. On le voit en synchronisation chanter, mais aussi on le voit tel un acteur de cinéma, parce que Johnny, il est aussi charismatique que bon chanteur. Donc on le voit dans les Rocheuses, on le voit marcher dans New York. C'est tout un voyage sur plusieurs décennies. Et puis, bien sûr, pour l'accompagner, un groupe, des percussions, un orchestre de 60 personnes, une chorale, un chœur de 40 chanteurs. On est plus de 100 à vivre en live chaque soir une expérience et une aventure musicale avec lui.
Dans tes cheveux s'étale comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé.
Il y a dans ce spectacle les tubes, évidemment, les grands standards de Johnny, mais pas seulement.
Bien sûr qu'il y a toutes les grandes chansons, Que je t'aime, Diego, Vive pour le meilleur, L'envie, il y a tellement de tubes chez Johnny, mais il y a aussi de temps en temps, parce que j'ai découvert des choses, par exemple une chanson qui est un peu moins connue comme Quelques cris, qui a une chanson très rock et qui avec l'orchestre et les chœurs prend une dimension très épique. Je trouve que c'est très très intense, ça propose quelque chose de totalement différent, les gens la reconnaissent à peine, ils disent mais c'est incroyable, et ça c'est pour moi c'est ça qui est important.
Le premier cri
que j'ai poussé. C'était un cri de nouveau-né.
Yvan Cassar, il y a aussi des reprises de grands classiques de la chanson française. Brel, Piaf, par exemple. Il aimait bien, Johnny Hallyday, reprendre ses standards.
Johnny avait l'habitude de chanter un grand classique à la fin des spectacles de Brel, de Piaf, de Beko, d'Aznavour. Et c'est là qu'on se rendait compte à quel point sa voix était exceptionnelle. Cette douceur, cette rondeur, ce velours dans la voix, il y a quelque chose qui fait qu'il peut vous emmener très très loin. Ça ne force pas, ça reste rond, ça reste merveilleux dans le timbre. Il n'était jamais meilleur que devant les gens. Il y a un lâcher prise qui fait qu'on est ému, on est transpercé à chaque fois.
Comment faites-vous pour gérer un projet aussi gigantesque en tournée? Comment ça s'organise concrètement?
C'est vrai que c'est pas un projet à l'économie, hein. Mes producteurs, ils me le disent souvent. Sur scène, on est 130, mais on pouvait pas faire autrement avec Johnny. On n'est pas un spectacle parisien et puis on fait une version un peu moins pour la province. Ça, c'est pas du tout possible. Mais c'est vrai qu'on a voulu que les gens soient impressionnés par le dispositif, parce que chez Johnny, on allait chercher ça aussi. Bien sûr, le grand décor, la surprise, l'entrée spectaculaire. Donc là, c'est vrai que grâce aux écrans et à ce dispositif qui est un peu surdimensionné, ben on a cette sensation.
Merci Yvan Cassar.
Merci à vous.
Je vous préviens, n'approchez pas. Que vous soyez flic ou bateau, je tue celui qui fait un pas. Non, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Dites au curé, dites au pasteur, qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans elle? Un fou d'amour. Mon ciel, c'était tes yeux, sa bouche. La vie, c'était son corps, son cœur.
Requiem pour un fou, Johnny Hallyday en version symphonique, extrait du Johnny Symphonic Tour, le spectacle imaginé par le musicien Yvan Cassar, qui était notre invité culture ce matin.
Le Conseil Santé avec Sunou Assurance.
Avant le journal, le Conseil Santé du jour, Chantal Leroux et son invité parlent des maladies de la petite enfance.
Professeur Idrissa Dembaba, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous êtes pédiatre, pneumopédiatre et allergologue, chef du service de pneumologie pédiatrique du Centre Hospitalier National d'Enfants Albert Royer de Dakar au Sénégal. Professeur, quels sont les mots, les maladies de la petite enfance qui reviennent le plus souvent?
La petite enfance souffre certaines pathologies qui sont dans la plupart des cas bénignes. Elles concernent surtout les affections respiratoires qui constituent la première cause de morbidité. Si on parle d'affections respiratoires, c'est les rhinites, les pharyngites, les bronchites. Et ça peut aller jusqu'aux crises d'asthme et parfois nous avons des cas de pneumonie, particulièrement cette période. À côté de ces affections respiratoires, nous avons les autres maladies qui touchent le système digestif, les diarrhées, les vomissements. Donc c'est surtout ces affections courantes qui concernent la petite enfance.
Si on sent que son enfant ne va pas bien, à quel moment doit-on impérativement l'emmener chez le médecin?
Il y a ce qu'on appelle des signes d'alerte, des signes de danger et de gravité. Un enfant, normalement, ça doit jouer beaucoup, ça doit être très énergique. Si l'enfant est très calme, ne bouge pas beaucoup, et donc est très somnolent, ça veut dire que c'est un signe de danger. Si l'enfant respire difficilement, c'est-à-dire respire en cherchant beaucoup son souffle, c'est un signe de danger et de gravité. Si l'enfant devient pâle, change de couleur ou devient bleu, ou si l'enfant est inconscient. Et parfois, on dit qu'un enfant qui refuse de manger, qui pleure beaucoup, qui gêne, qui a un gênement, donc il a une maladie grave et mérite souvent d'aller voir le pédiatre. Ou sinon, quand l'enfant vomit beaucoup ou a beaucoup de diarrhée, donc ça, la conséquence, c'est la déshydratation. Dans ces situations, il faut impérativement aller voir un médecin ou un professionnel de santé.
Merci beaucoup, professeur Idrissa Dembaba. Bonne journée à Dakar.
Merci à vous Chantal Leroux, on vous retrouve pour Priorité Santé à 11h10 heure de Paris. L'émission de ce lundi sera consacrée aux brûlures.
Avignon devient capitale mondiale du théâtre à partir du 29 juin. La nouvelle édition du Festival d'Avignon nous invite à chercher les mots ensemble pour dire et habiter ce monde avec 37 spectacles et expositions. Plus de 300 rendez-vous à destination de tous les publics avec cette année l'espagnol comme langue invitée et le chorégraphe Boris Charmatz comme artiste complice. En partenariat avec France Média Monde.